Vendredi politique, en partenariat avec Libération et France 24.
Anissa El Jabri.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Mardi Politique. Notre invitée aujourd'hui, c'est Delphine Bateau. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes députée PS, ex-ministre de l'écologie, et avec vous, on va parler bien sûr de l'affaire Fillon-Jouyé, du climat dans la majorité qui se délite, du gouvernement, d'environnement également. Et à mes côtés pour cette émission, Grégoire Bizot pour Libération et Roselyne Fèvre pour France 24. Bonsoir.
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 Alors, il fait la une de tous les journaux avec François Fillon. Le secrétaire général de l'Élysée est avec l'ancien Premier ministre au cœur d'une tempête politique depuis plusieurs jours. À droite, on resserre les rangs et on désigne un seul coupable dans cette affaire, Jean-Pierre Jouyé. Sa démission, elle est inéluctable, dit cet après-midi François Bayrou. Delphine Bateau, pour vous, est-ce que Jean-Pierre Jouyé peut tenir à son poste?
Non, évidemment. Évidemment, non. Il a fait une faute professionnelle. Je pense qu'un ministre dans cette situation qui aurait sur le dos une histoire pareille n'aurait pas tenu 24 heures.
Il y a Christine Taubira, rappelez-vous.
Avant d'être obligé de démissionner. Et donc, non, je pense effectivement que... Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas d'autre solution.
Mais c'est le bras droit de François Hollande, son meilleur ami, sont séparés. Est-ce que ça ne serait pas un grand signe de faiblesse?
Un ministre qui se trouverait dans la même situation serait obligé de démissionner. Je pense que d'ailleurs ça serait intervenu très vite. Donc effectivement, il y a une forme d'anomalie. Pourquoi est-ce qu'il fait partie de la classe des intouchables, de ceux qui n'ont jamais de compte à rendre à personne, ni sur rien? Moi, cette situation ne me paraît pas normale. Je ne trouve pas normal que le secrétaire général de l'Élysée se comporte comme un intrigant, et je ne trouve pas normal que le secrétaire général de l'Élysée reçoive des journalistes pour s'entretenir avec eux des turpitudes de l'opposition et de nos adversaires politiques.
Alors, vous venez de dire, si un ministre avait menti ou serait dans cette situation, il aurait dû démissionner. Rappelez-vous Christiane Taubira, donc garde des Sceaux, qui s'était encore, sur une affaire Sarkozy, pris les pieds dans le tapis, avait brandi des feuilles. On s'était rendu compte qu'en fait, il y avait un petit mensonge derrière, ou alors une faute d'appréciation, ou alors un manquement, ou un oubli.
Peut-être une faute d'appréciation, mais ce n'est pas aussi net. Qui est ensuite invalidé par l'intéressé directement. Et encore une fois, sur le principe même que le secrétaire général de l'Élysée rencontre des journalistes qui font un livre.
Mais qu'est-ce que vous leur reprochez exactement?
Parce que vous dites un intrigant.
Pour donner un certain nombre d'informations, ça ne me paraît pas être le fonctionnement normal. En tout cas, c'est pas ma conception de l'éthique qui doit être celle de la gauche et de la démocratie.
Grégoire Bizot.
Non, mais j'ai pas bien compris quelle était la faute que vous lui reprochez. Très précisément. C'est quoi la faute de Jean-Pierre Jouyé dans cette affaire?
Il y en a deux. La première, c'est d'avoir dit une chose puis son contraire, donc d'avoir d'abord démenti la véracité des faits, puis ensuite de l'avoir confirmé. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est le fait même de donner un entretien à des journalistes qui travaillent sur les turpitudes de l'opposition. Ce n'est pas le rôle.
En l'occurrence, les journalistes en question travaillent sur le quinquennat de François Hollande. Ils ont profité.
Manifestement, cet entretien, à croire vos confrères, c'était pas l'objet de cet entretien.
Mais cette question, excusez-moi, journalistiquement, et même on peut dire démocratiquement, elle n'est pas inintéressante, de savoir si oui ou non, ils ont eu vent que François Fillon est venu voir l'Élysée pour éventuellement faire pression, leur demander de faire pression sur la justice. Si c'est avéré, cette information, c'est une information démocratiquement intéressante qui intéresse le citoyen, le débat public. Pourquoi vous remettez en question le fait de le secrétaire général ait à s'exprimer là-dessus quand il est interrogé?
À moi, je trouve que c'est pas le rôle du secrétaire général de l'Élysée d'alimenter un livre qui est un livre par ailleurs avec un très bon travail d'investigation sur les turpitudes qui sont celles de la droite. Ce n'est pas son rôle. Et justement parce que nous voulons que la justice soit indépendante, qu'il y ait un travail d'investigation de presse de vos confrères, c'est légitime. Enfin, je veux dire, ils font leur travail, mais il n'y a pas à alimenter de quelque façon que ce soit.
Alors, le l'occurrence, il œuvre pour une certaine transparence démocratique, là, Juillet.
Non, je ne crois pas. Non, j'appelle pas ça de la transparence démocratique. Non.
Rosine Fèvre. D'autant que quand on lit le livre de nos confrères, on voit que la réponse de Jean-Pierre Jouyet aux journalistes est de dire mais non, la justice doit faire son travail. La justice est indépendante. Et il va voir François Hollande et il lui raconte et il lui dit ça. Il lui dit je leur ai dit que j'ai dit à Fillon que la justice était indépendante. Donc pour rebondir sur ce que disait Grégoire, ce qui aurait été grave, c'est que la réponse à Fillon soit positive, en disant « Mais oui, pas de problème, on va s'en occuper. » Or, la réponse de Jouyet, dixit les journalistes, c'est « On ne touche pas à la justice. Ce fameux cordon n'existe pas, on ne peut rien faire. » C'est ça qui aurait été grave, Delphine Bateau.
Je pense que ça aurait été encore plus grave. Qu'il n'y ait plus d'intervention sur la justice, c'est la moindre des choses. Mais pourquoi va-t-on se mêler des histoires de la droite ? Honnêtement, quel est l'intérêt? Si la justice est indépendante, si les procédures doivent aller jusqu'au bout, pourquoi se mêle-t-on de ces histoires?
Mais Madame Bateau, vous savez très bien qu'aujourd'hui, il y a une thèse véhiculée parmi certains députés de droite qui dit qu'il y a un cabinet noir à l'Élysée dont le but est de déstabiliser, voire empêcher le retour de Nicolas Sarkozy. C'est précisément des accusations qui sont portées.
Je pense que
journalistiquement, on peut se demander.
Justement, le meilleur démenti à apporter à ces théories du complot, à ces visions complètement paranoïaques, est de ne pas entretenir ni de près ni de loin ce type d'allégations. Vous faites la démonstration exactement inverse. Si vous ne voulez pas entretenir ce type d'allégation, vous n'allez pas recevoir deux journalistes pour leur raconter un certain nombre d'informations. Ça me paraît vraiment élémentaire.
Vous avez utilisé le terme d'intrigant. Ce qui se dit beaucoup aussi, c'est que Jean-Pierre Jouyet souvent ne mesure pas sa parole. Par exemple, il avait annoncé la nomination de Jean-Marc Ayrault avant que ce ne soit officiel. Là, on est sur des choses évidemment beaucoup plus importantes. Mais est-ce qu'il ne s'agit pas là tout simplement d'une forme d'amateurisme qui a été dénoncée par des députés socialistes?
Écoutez, en tout cas, je pense qu'il faut faire simple. Le rôle d'un secrétaire général à l'Élysée, c'est de protéger le président de la République. Et donc, à partir du moment où il y a une mise en cause, où une chose a été dite et ensuite son contraire, où il y a quand même un émoi et un trouble profond dans le pays, moi je l'ai encore vérifié ce matin, je pense qu'une clarification est absolument nécessaire.
François Hollande a fait un mauvais choix quand il l'a nommé secrétaire général de l'Élysée, en connaissance de cause.
Oui, ça je l'ai dit et écrit dans mon livre. Je pense qu'il y a une forme d'entre-soi qui n'est pas bonne. La façon dont Pierre-René Lemas avait été mis à la Caisse des dépôts pour être remplacé par Jean-Pierre Jouyet, les deux étant de la même promotion, oui, ça me paraît pas être un choix pertinent.
Mais là, vous parliez de choix politiques sur le symbole de la continuité entre le quinquennat Sarkozy.
Non,
et
le symbole d'une forme. Le symbole d'une forme d'enfermement. Je pense que la grande question qui est posée, c'est-à-dire d'enfermement sur les mêmes équipes, sur une forme de conformisme de la pensée, sur une seule promotion de l'ENA, voire deux promotions. Ça, pour moi, si vous voulez, c'est la caricature des difficultés actuelles de la gauche, qui est de changer les choses, de changer la société, de porter un idéal et de pas s'enfermer dans des visions qui sont des visions gestionnaires.
Pour autant, dans cette affaire, est-ce qu'il n'y a pas un classique effet qu'on a vu en le début de ce quinquennat? Mauvaise communication, après tout. Beaucoup d'élus socialistes ont dit ça ces deux derniers jours. C'est le retour de la fameuse méthode Pasqua. Dans une affaire, on crée une autre affaire. Mmh. Et le vrai problème, c'était que François Fillon aurait voulu justice intervienne.
Vous avez raison, mais si on ne veut pas créer une autre affaire dans l'affaire principale, on ne s'en mêle pas. Ni de près, ni de loin. C'est une règle extrêmement simple, extrêmement fondamentale. On ne se mêle pas des affaires de la droite. Voilà, donc on ne les entretient pas, on n'en parle pas, on ne reçoit pas des journalistes pour leur faire donner des informations. On ne s'en mêle pas, ni de près, ni de loin.
Est-ce que vous croyez à la version de François Fillon qui dit que c'est un complot de Jean-Pierre Jouyet pour déstabiliser
la
droite?
Non, je ne crois pas particulièrement à la version de François Fillon. Non,
vous voyez qu'il ment? Pardon? Pour le coup, est-ce qu'il ment aussi?
Non, écoutez, j'en sais rien. Moi, j'y étais pas. On voit bien le jeu des uns, des autres, des démentis. Et à la fin, on ne sait plus qui dit la vérité. En tout cas, quand on a en charge le secrétariat général de la présidence de la République, on ne peut pas dire une chose un jour et son contraire le lendemain. Et on ne peut pas donner un entretien à des journalistes sur les affaires de la droite. C'est aussi simple que ça.
Jean-Pierre Jouyet serait le seul secrétaire général de l'Élysée à ne pas recevoir de journalistes de toute l'histoire de la 5e, voire de la vie politique française. Hein.
J'ai pas dit qu'il doit pas recevoir de journalistes.
Et qu'il parlerait pas du climat politique, de la droite.
Il reçoit des journalistes qui font un livre sur Nicolas Sarkozy.
Non, sur Nicolas Sarkozy et le quinquennat de François Hollande. Comment François Hollande précisément gère cette question?
Il reçoit des journalistes qui font un livre sur Nicolas Sarkozy, d'une part, d'autre part, ces journalistes, de ce que j'ai lu, de ce que disent vos confrères, les rappels, disent on va mentionner l'affaire dans le livre, pas de problème si c'est off, etc. Donc non, je suis désolée, non. Et ça n'a rien à voir avec le fait de recevoir des journalistes pour parler du quinquennat de François Hollande.
Est-ce qu'il y a une malédiction sur le quinquennat d'Hollande?
Non, moi je crois pas à l'astrologie ou c'est pas vous voyez ou non, à la superstition.
Je sais pas, on pourrait dire les socialistes c'est un peu les Atrides, vous savez cette famille maudite
fondamentalement qu'est-ce qui va pas? Pourquoi une histoire comme celle-ci existe et pourquoi elle prend ses proportions? Parce qu'il n'y a pas de vision de l'avenir, il n'y a pas de projet de société, il n'y a pas d'idéal qui remue les tripes, qui unit tout le monde, qui met tout le monde en mouvement autour d'un même objectif. Et donc, à partir de là, c'est la porte ouverte à ce type de
dérive.
Oui,
je vois ce que vous voulez dire, réenchanter la politique.
La politique, c'est que la gauche a été élue sur un projet qui était le changement, c'est maintenant. Et qu'elle semble engluée dans une logique gestionnaire dans laquelle il n'y a pas d'horizon, dans laquelle il n'y a pas de projet de société, donc il n'y a pas d'entraînement ni de la majorité ni des forces sociales progressistes et donc tout paraît effectivement congelé et avec chaque semaine son nouvel épisode de difficulté.
Le paradoxe s'il y a bien quelque chose sur lequel ça a manifestement changé, c'est bien les rapports du politique, de l'exécutif avec la justice.
En partie, oui, pas complètement.
Jusqu'à preuve du contraire, en tout cas, on n'a jamais pu mettre en lumière.
En partie, oui, pas complètement, parce que la réforme de l'indépendance du parquet n'a pas été jusqu'au bout, pour la raison que vous savez, c'est-à-dire qu'il faut une majorité des 3/5. Si d'ailleurs les événements actuels permettent de la remettre à l'ordre du jour et d'avoir une majorité des 3/5, ce sera tant mieux.
Donc là, c'est pas une faute ni du gouvernement ni de la gauche, on est d'accord.
Il a été mis fin aux instructions individuelles au parquet. L'avis du CSM sur les nominations a été respecté, mais il y a toujours des remontées d'informations et on ne peut pas. La réforme du Conseil supérieur de la magistrature n'a pas été faite pour la raison du blocage institutionnel.
En tout cas, avec cette affaire, Nicolas Sarkozy joue sur du velours, sur l'air bien connu de la victimisation. Alors, on écoute parfois des extraits de discours dans cette émission, donc on va le réécouter hier soir en meeting à Caen.
Les révélations du week-end dernier me renforcent dans cette certitude, dans la conviction qu'il nous faut tourner la page de ces feuilletons écœurants, où l'on veut abattre un concurrent ou un adversaire en le salissant. Je voudrais poser la question de savoir si le pouvoir n'a vraiment rien d'autre à faire que de donner le sentiment de vouloir instrumentaliser en permanence la justice.
Bon, avec cette affaire, on renforce la dynamique de Nicolas Sarkozy. C'est un des grands gagnants.
La dynamique, je ne crois pas. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait une grande dynamique autour du retour de Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, pas seulement en raison des nombreuses turpitudes qui le concernent, des fameux dossiers judiciaires, mais aussi parce qu'il n'y a pas dans la société aujourd'hui retour de Nicolas Sarkozy par rapport à ce qu'a été le bilan de son quinquennat, dont il n'a d'ailleurs toujours pas tiré un bilan critique. Donc non, il n'y a aucun, je ne crois pas qu'il y ait de dynamique aujourd'hui autour de Nicolas Sarkozy.
chez les militants UMP qui, eux, votent, c'est un discours qui rencontre un écho certain.
Celui de
la victimisation,
oui, c'est un peu vieux comme le monde.
Ouais.
Il y a une façon même d'aller, utiliser le débat politique pour relativiser certainement un débat judiciaire, mais encore une fois sur lequel moi j'ai pas à me prononcer, c'est à la justice de faire son travail sur ces différents dossiers.
Alors vous dites il y a pas une dynamique sur Nicolas Sarkozy, mais j'ai envie de dire il y a une dynamique nulle part
malheureusement.
Oui, vous pensez à Marine Le Pen. Mm-hmm. On en parlera bien sûr puisque c'est un sujet important, grave, mais est-ce que vous avez pas le sentiment que toute cette parole publique elle est démonétisée? Que c'est ce que disait dans le fond Valls à son premier discours de politique générale, la parole publique est devenue une langue morte. Mmh. Aujourd'hui, on a le sentiment que il y a un désengagement total du politique et que les Français d'ailleurs n'y répondent plus, ne vous croient plus, ne vous entendent plus. Cette impuissance politique, elle est quand même, elle touche tout le monde.
Je la raconte longuement dans mon livre où je cherche à disséquer les causes profondes de cette situation, du rejet, parce que je pense qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, du système politique actuel, tel qu'il fonctionne, tel qu'il paraît déconnecté des préoccupations des gens, et surtout tel qu'il paraît impuissant à changer les choses dans le fonctionnement de l'État, dans le rôle que joue aussi la technostructure, dans les lobbies qui se dressent dès que l'on veut changer les choses vraiment sur un certain nombre d'enjeux majeurs, comme par exemple ceux de l'écologie. Donc ce constat, je le partage, mais moi je me contente pas aujourd'hui d'un constat. Je cherche à changer les choses. Et pour ce qui concerne la gauche, j'ai vraiment la conviction que le problème vient de cette absence de vision de long terme, de projet de société, d'idéal. Faut tout reconstruire. Et il y a effectivement aussi, dans le panorama que vous dressez, ce qui devient quasiment une crise de régime, c'est-à-dire l'inadaptation complète des institutions de la Ve République à une société qui a changé, qui est aujourd'hui beaucoup plus horizontale, où l'information est partagée en temps réel, et où les structures du pays sont celles du siècle dernier.
Mais pour revenir, Delphine Bateau, au Front National, est-ce que d'une manière plus générale, vous diriez par exemple, comme Manuel Valls, que l'extrême droite est aux portes du pouvoir ?
J'avais parlé de marche au pouvoir de l'extrême droite en juillet 2013. Donc cette expression de Manuel Valls ne me choque pas. Ce danger effectivement aujourd'hui est réel. La question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait face à ce risque.
Vous dites le danger est réel. C'est-à-dire vous les voyez prendre des régions en décembre 2015, beaucoup, vous les voyez de façon sûre au deuxième tour de la présidentielle.
Le risque est réel, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, j'ai la conviction que par rapport au danger que représente la progression de l'extrême droite, la solution n'est plus seulement de dénoncer son programme, d'en montrer les risques, les impasses, c'est de soulever en France un nouvel espoir, de mettre en mouvement une nouvelle génération, de proposer des idées nouvelles, d'ouvrir l'horizon d'une force positive.
Par exemple, parce que Delphine Bateau, on vous entend beaucoup dans les médias depuis la sortie de votre livre, mais on vous a surtout entendu pour un peu flinguer à tout va, y compris votre propre camp. Qu'est-ce que vous pourriez proposer de positif au président de la République?
Je ne flingue pas, j'ai des désaccords.
Il vous reste 2 ans, monsieur le président. Voilà ce qu'il faudrait faire.
Mettre 14 milliards d'euros par an sur la transition énergétique. On met bien 41 milliards sur le CICE. Mmh. 14 milliards, c'est pas le bout du monde. Renationaliser en transformant en société coopérative EDF. Engager toute l'industrie française sur un plan d'investissement pour l'économie circulaire. Non, mais vous me demandez des idées, je vous en donne. Non, mais
oui. Et bien celle-là, on va devoir les aborder en deuxième partie d'émission, parce que c'est la fin de la première partie de Mardi Politique avec vous, donc Delphine Bateau, députée PS des Deux-Sèvres, ex-ministre de l'écologie. On se retrouve pour aborder tous ces thèmes juste après les informations dans quelques minutes. De Mardi Politique.
Mardi Politique, en partenariat avec Libération et France 24.
Anissa El Jabri.
Mardi politique, deuxième partie avec Delphine Bateau, députée PS, ex-ministre de l'écologie, Grégoire Bizot de Libération, Roselyne Fèvre de France 24. Alors avant la coupure, avant les informations, vous étiez en train de nous expliquer ce qui pour vous était important, comment il fallait réorienter la politique. Beaucoup de partenaires de la majorité à gauche le réclament, les écologistes, Pierre Laurent ce week-end, les communistes l'ont fait aussi. Mmh. Est-ce que vous voyez pas forcément une alternative, mais une vision commune se dégager? Est-ce que il y a de vraies choses que vous partagez? Vous pourriez voter ensemble sur d'autres textes?
Je vois pas les choses comme ça. Je crois que la problématique pour tous ceux qui ne sont pas d'accord avec un certain nombre de choix économiques budgétaires qui sont faits aujourd'hui, n'est plus de s'en tenir simplement à critiquer l'austérité. C'est de proposer une alternative crédible, sérieuse, de comprendre que le vrai débat aujourd'hui n'est pas entre soutien à l'entreprise ou soutien à la demande, et donc comme on le présente parfois, entre politique de l'offre et politique de la demande, le vrai débat est entre le passé et l'avenir. Et donc ce qu'il faut faire, c'est organiser un choc d'investissement autour des politiques de long terme. C'est pour ça que je parlais des 14 milliards d'euros pour la transition énergétique, c'est-à-dire qu'en profondeur, il faut comprendre qu'on est sur une stagnation économique durable en Europe et en France, qu'il n'y aura pas de retour de la croissance à l'ancienne, qu'on ne reviendra pas au monde d'avant et que donc il faut organiser notre changement de modèle. Ça se joue sur la transition énergétique, ça se joue sur une idée nouvelle qui est celle de l'économie circulaire, c'est-à-dire comment on va développer un nouveau modèle de prospérité en étant beaucoup plus économe en ressources, en matières premières, en énergie. Ça se joue sur la mutation de notre modèle agricole, donc c'est tous les enjeux écologiques autour desquels on peut et on doit revisiter un programme de gauche sur la question du travail, sur la question sociale et sur la question de la répartition des richesses.
Roselyne Fèvre. À vous entendre, on a l'impression que vous auriez plus votre place chez les Verts, à Europe Écologie Les Verts. Or, quand on regarde un peu votre parcours, on se dit, Delphine Bateau, dans le fond, elle était, c'était une ancienne Royal Girl, je dirais, avec Ségolène Royal, vous êtes fâchée un peu avec elle. Martine Aubry, vous dites, elle propose rien de neuf. Vous n'aimez pas Jean-Marc Ayrault, François Hollande, n'en parlons pas, dans le fond. Où êtes-vous et où vous situez-vous?
Je me bats pour qu'une nouvelle génération prenne la parole et s'engage.
Vous êtes toute seule pour l'instant?
Tout à l'heure, vous me posiez une question sur les blocages du système politique actuel. Je pense qu'il y a aussi un blocage générationnel, pas que dans le monde politique d'ailleurs, des élites françaises, je l'ai vu aussi dans le monde économique, où les patrons du CAC 40, bientôt heureusement il va y avoir une femme, mais ce sont que des hommes de plus de 50, 55, 60 ans même, alors qu'on a plein de jeunes cadres d'entreprises hyper dynamiques et qu'on a en profondeur dans la société des choses qui sont en train de changer, ce qui est en train de se passer sur l'économie collaborative, l'économie circulaire, j'en ai parlé, sur les circuits courts dans le monde rural, et que toutes ces énergies, d'abord pour l'instant, sont éparpillées, donc il faut les regrouper, les mettre en mouvement, et surtout, elles sont bloquées par une sorte de plafond de verre. Alors, c'est valable pour ce que Hillary Clinton dit à propos des femmes, mais c'est valable aujourd'hui en France pour les jeunes, pour les gens qui font des choses innovantes, que ce soit dans le domaine de la création, dans le domaine de l'entreprise.
Alors, j'entends bien quand vous dites tout ça, donc mais êtes-vous une politique responsable quand vous ne votez pas, enfin vous abstenez sur le vote du budget, notamment sur la sécurité sociale, vous êtes allé au cinéma. Et je voudrais vous poser une question.
Non, je n'ai pas été au cinéma, je ne peux pas vous laisser dire ça. Parce que j'aimerais que dans ce pays, il y ait un minimum de respect, vous voyez, pour le monde rural. Et donc je n'ai pas été au cinéma, j'ai été au festival du film international de Ménigout, qui est un festival organisé, c'est pas bien. Le festival de Cannes. Oui. C'est un festival organisé par 300 bénévoles et par des associations depuis 30 ans. C'était le 30e anniversaire prévu depuis 6 mois. Et donc oui, ce jour-là, dans le contexte en plus de ce qui se passait sur le barrage de Sivens, pour moi, c'était plus important d'être aux côtés de ces militants et aux côtés des associations dans ma circonscription, là où j'ai été élue,
que d'être à l'Assemblée,
sachant que
le budget de la sécurité sociale.
Oui, sachant qu'il y aura un vote en deuxième lecture, il y aura un vote en lecture définitive, voilà. Alors, donc ne vous inquiétez pas. Mais j'assume complètement, je le revendique même ce que j'ai fait.
Mais moi j'ai une question à vous poser. Si, imaginez qu'il y ait qu'il manque une voix à la majorité pour basculer ou pour que la majorité perde, que le gouvernement soit renversé. S'il manque une voix, et que c'est la vôtre. Est-ce que vous votez contre ou vous votez pour?
Ce n'est pas le cas, d'abord, premièrement. Deuxièmement, pour répondre à votre question, je ne me défile pas du tout, puisque ce que vous êtes en train de dire, c'est la raison pour laquelle j'ai voté la confiance au gouvernement. Moi, par mon vote, je ne provoquerai jamais une dissolution. Je le dis, je l'assume clairement. Je ne provoquerai jamais une dissolution.
Donc vous l'avez fait parce que vous savez que d'autres iraient voter à votre place?
Non, ce n'est pas comme ça que les choses se jouent. Mais lorsque le gouvernement engage sa responsabilité sur un vote, ce qui est le cas du vote de confiance, j'ai voté la confiance malgré les centaines de désaccords que j'ai avec Manuel Valls ou avec François Hollande, précisément parce que je ne veux pas provoquer une crise institutionnelle.
Alors, depuis ce vote de la confiance, la fracture s'est agrandie avec les partenaires de la majorité. Pierre Laurent disait ce week-end, Manuel Valls n'est pas, ne sera jamais le Premier ministre de la gauche. Cécile Duflot disait il y a quelques jours qu'il proposait une synthèse libérale autoritaire. Est-ce que vous comprenez tant de rejets dans une partie de la gauche ?
Le danger aujourd'hui, c'est celui d'un émiettement profond de la gauche, d'une division profonde, avec toutes les conséquences que ça comporte. Tout à l'heure, on parlait du risque que représente la montée de l'extrême droite. On n'arrivera pas à résoudre ce problème et à conjurer ce risque de division par des échafaudages de rassemblement de partis ou de construction de majorité. Il faut repartir à un processus avec les citoyens et sur un projet de société. C'est-à-dire, on peut le prendre par tous les sens qu'on veut. Aucun mécano d'addition de formation politique ou de sous-courant de formation politique ne permettra de donner un nouvel élan si on ne repart pas du principal, c'est-à-dire qu'est-ce que la gauche, qu'est-ce qu'elle veut changer dans la société française, quel est son horizon à long terme.
Donc Manuel Valls a tort quand il fait cette interview dans l'Obs en disant il faut changer le nom du Parti Socialiste, il faut changer les choses sur l'assurance chômage,
moi,
il faut un contrat
pas,
unique.
Ça me choque pas, mais je ne suis pas d'accord forcément avec ce qu'il a dit, mais je ne suis pas choquée qu'en soi le Premier ministre prenne la parole sur des questions politiques au-delà de la gestion des affaires de l'État. Je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui du débat politique fondamental.
Ça contribue à l'émiettement de la majorité quand il dit ça. Les députés socialistes étaient furieux.
Oui, ça contribue au débat. Et moi, je ne suis pas d'accord avec un certain nombre des idées qu'il a défendues. Mais par exemple, en soi, l'évolution des structures et des appareils politiques actuels de la gauche, moi, je considère que la question est posée, qu'on ne peut pas la balayer du revers de la main et qu'elle ne se résume pas, loin de là, à une question de changement de nom.
Mais si je peux me permettre, Delphine Batou, il y a un peu une injonction contradictoire entre ce risque d'émiettement et donc cette nécessité de rassemblement de la gauche et la posture critique que vous avez sur la politique économique menée du gouvernement en disant il faut en changer complètement, sachant que s'il y a bien quelque chose dont on sait tous qu'il ne va pas changer, c'est la politique économique du gouvernement.
Alors la gauche ne se relèvera pas. Si ce que vous dites est vrai, c'est-à-dire qu'en fait on a le droit de débattre de rien, que comme François Hollande l'a dit, comme il l'a dit d'ailleurs dans son émission de télévision, décide de tout et tout seul et que on ne peut pas en débattre et qu'il est convaincu que c'est ce qu'il faut et que c'est ce qu'il faut faire et qu'il y aura un jour des résultats. Moi j'assume parfaitement d'être en désaccord avec ça, d'être en désaccord avec cette pratique institutionnelle et d'être en désaccord avec le contenu de cette orientation.
Excusez-moi, je vais pas faire l'avocat du gouvernement, mais quand même vous dites
si vous le faites très bien d'ailleurs.
Parce que c'est quand même, ça a été débattu. Pourquoi vous dites ça n'a pas été débattu? Ça a été débattu, ça a été
voté.
Ah non,
ça n'a pas été débattu.
La politique du gouvernement n'a pas été votée à l'Assemblée nationale.
Ça n'a pas été
par
débattu.
Un groupe majoritaire.
Ça n'a pas été débattu. Je le raconte d'ailleurs très bien dans mon livre. Je raconte très bien, par exemple, ce qui s'est passé dès les premières semaines, dès les premiers mois au sein du gouvernement, où les choix fondamentaux par rapport au fait d'éviter un choc avec les marchés financiers, ce qui est une décision d'ailleurs qui pouvait se justifier par rapport au traité européen, ensuite par rapport au CICE, n'ont pas été débattus au sein du gouvernement.
Mais c'est difficilement audible aujourd'hui de dire il n'y a pas de débat au sein du groupe majoritaire qui soutient. C'est-à-dire, les frondeurs, on les entend, les positions alternatives qui portent, on
non,
les entend.
Non, justement, il n'y a pas de position alternative.
Si, ils portent des positions très précises,
Non, il y a une position critique,
dire
c'est d'ailleurs
qu'il
n'y
a
pour
pas
ça.
De débat aujourd'hui au sein de la gauche,
ça,
c'est étonnant.
J'ai pas dit qu'il n'y a pas de débat.
Vous dites que la politique du gouvernement n'est pas débattue. Elle est débattue, alors, elle est tranchée par des votes.
Là, excusez-moi, je pense qu'on tourne en rond. J'ai dit que en 2012, en mai 2012, juin 2012, juillet 2012, octobre 2012, septembre 2012, les choix fondamentaux qui ont entraîné ensuite toute la décision d'orientation de politique économique du gouvernement n'ont pas été débattus collectivement. C'est-à-dire qu'on avait une situation où dans la campagne présidentielle, on était une équipe politique collective qui fonctionnait ensemble, qui élaborait ensemble, et du jour au lendemain, on s'est retrouvé dans le système de la Ve République où la décision d'un seul, le fait présidentiel, s'impose et où des choix politiques décisifs qui allaient entraîner tout le reste n'ont pas été débattus collectivement, ni au sein du gouvernement, ni au sein du parti.
Mais alors, justement, beaucoup au PS aujourd'hui disent qu'il faudrait un congrès relativement pas rapidement, que ça permettrait de clarifier la ligne politique. Hier, la haute autorité du PS préconisait que ce fameux congrès ait lieu au courant du premier semestre 2015. Est-ce que, pour vous, ça serait le bon moment et le bon endroit pour avoir ce débat sur les lignes politiques?
Je ne me fais pas tellement d'illusions, vu ce qu'avait été le congrès de Rennes ou le congrès de Reims. Je sais que les congrès du Parti Socialiste sont souvent des congrès et toujours d'enjeux de pouvoir. Donc je me fais... C'est un processus nécessaire, mais en même temps, je veux dire aujourd'hui que les militants le redoutent, parce qu'ils savent... on risque d'avoir un congrès qui ne va pas être un congrès de débat de fond serein, mais de guerre de tranchées avec la comédie dont sont toujours capables les appareils politiques pour savoir qui fait combien de voix à quel endroit. Donc je ne pense pas, si vous voulez, que le renouveau dont la gauche a besoin aujourd'hui viendra d'un simple congrès du Parti Socialiste.
Mais est-ce que vous avez le sentiment réellement que quand on gouverne, on parle avec le Parti Socialiste? Quand on gouverne, on gouverne. Le problème des socialistes, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que voilà, c'est que les socialistes parlent aux socialistes, les socialistes au gouvernement parlent à Solferino, mais c'est fini cette culture de débat, cette culture de querelle bizantine, c'est fini. Quand on
parle aux citoyens, non, c'est pas une querelle bizantine. Alors c'est que je ne comprends pas votre question.
Il faut débattre.
Il faut parler aux citoyens. Je pense que c'est très important quand on est aux responsabilités de rester à l'écoute des citoyens.
Mais c'est pas ce que vous aviez l'air de dire. Vous aviez l'air de dire qu'au sein du Parti Socialiste n'était pas débattu de la politique.
Il y a eu un processus qui était celui des primaires, qui avait permis un débat entre des candidats, qui avait mis en mouvement des milliers de citoyens dans la société française. Derrière ça, il y a eu une campagne électorale. Cette campagne électorale, elle avait un contenu sur le changement, sur le redressement des comptes publics, mais aussi sur le changement. Et derrière, il y a un choix qui a été fait, qui était un choix lourd, décisif, qui n'a pas été discuté collectivement.
Si vous dites que Hollande, je ne veux pas faire toute l'émission là-dessus. Hollande président, vous avez raison.
Oui, je voudrais aussi qu'on parle du barrage de Sivens. Vous l'avez mentionné tout à l'heure. Je ne crois pas vous avoir entendu sur l'initiative de Cécile Duflot la semaine dernière de proposer une minute de silence lors des questions au gouvernement pour Rémi Fraisse. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette initiative?
Vous ne m'avez pas suffisamment écouté.
Alors, redites-nous, est-ce qu'il fallait le faire?
Non, mais moi, je pense que d'abord, tous les députés, dans le temps de parole qui leur est imparti de 2 minutes, sont libres de leurs propos et y compris de se taire. Ensuite, j'aurais trouvé bien que Claude Bartolone, la semaine d'avant, puisqu'en fait cette séance de questions au gouvernement que vous évoquez était 10 jours après la mort de Rémi Fraisse, et moi j'aurais trouvé ça bien que le mardi qui avait suivi immédiatement cette disparition, une minute de silence soit organisée à l'Assemblée nationale, comme ça avait été fait par exemple pour Clément Méric en juin 2013.
Vous ne faites pas partie de ceux qui pensent que les écologistes ont instrumentalisé politiquement ce dossier?
Non, je dirais pas ça. Après, je crois qu'il y a aujourd'hui un problème avec non pas les écologistes, mais la direction des Verts, dans souvent son manque de fermeté pour défendre et d'exigence pour défendre les enjeux écologiques. Moi, je l'avais vu sur la question du budget. On l'a vu sur d'autres enjeux comme la loi de transition énergétique
ou même ce
barrage de Sivens, puisqu'ils étaient membres du gouvernement lorsqu'il a été autorisé. Et qu'il y a à la fois un manque de maturité dans le rapport aux responsabilités, puisque par exemple lorsque Manuel Valls leur avait proposé le ministère de l'écologie et de l'énergie, ils avaient refusé pour d'autres raisons politiques, bon, qui sont respectables mais qui n'ont rien à voir avec les enjeux environnementaux.
Mais Manuel Valls, on le sait, leur avait aussi proposé parce qu'ils savaient qu'ils allaient refuser. Ça, c'est le jeu de la politique.
Oui, moi j'avais pas compris ça comme ça. Je pense que quand on, enfin de leur point de vue, si vous voulez, mais encore une fois, moi je suis pas membre des Verts, mais de leur point de vue, d'avoir pour la première fois dans l'histoire les manettes sur la politique énergétique de la France et donc y compris le nucléaire, je pense franchement que quand même ça se discutait.
Mais eux-mêmes disent qu'au gouvernement, ça aurait été compliqué d'accepter des choses que vous-même vous refusez aujourd'hui, puisque vous êtes abstenu sur les
budgets. Ils sont restés au gouvernement après mon limogeage. Donc alors que cette question écologique était posée, donc il y a une espèce de choses que moi je n'arrive pas à comprendre sur on acceptait de Jean-Marc Ayrault des choses qu'on refuse de Manuel Valls. Bon, voilà, je trouve pas ça extrêmement cohérent.
On sent dans votre livre, vous épargnez Manuel Valls, le Premier ministre, vous avez l'air de plutôt bien vous entendre avec lui. À votre avis, non, vous faites l'amour un peu.
Non, c'est pas ça. Je sais pas que je l'épargne, c'est que j'assume moi complètement ce que j'écris sur le fait que je trouve que dans sa génération, c'est un des plus professionnels.
Brillant, vous avez dit, je crois.
Pardon ?
Brillant, non, je crois. Vous avez écrit.
Vous écrivez, ouais.
Non, j'ai pas mis brillant.
D'accord.
Vous m'avez
pas lu. Le meilleur de cette génération.
Le meilleur de cette génération. Est-ce que vous dites qu'il pratique une forme de politique moderne ?
Non,
mais c'est pas un compliment.
Pour prolonger, par exemple, oui, il a compris certaines choses. Ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que la langue politique est une langue morte, je crois qu'il avait été très marqué par le 21 avril et son travail aussi d'élu de banlieue. Maintenant, il porte aujourd'hui une politique avec laquelle je ne suis pas d'accord. Et pour moi, il n'y a pas de différence dans les orientations actuelle entre le président de la République et le Premier ministre. Et je ne m'inscris pas du tout, vous voyez, dans des coups de billard à cinq bandes.
Mais ce n'était pas ça ma question.
Est-ce
que d'après vous, il va rester à Matignon ou il a intérêt à partir dans 6 mois?
Ça, c'est à lui qu'il faut poser cette question.
Mais c'est... non, c'est jamais, vous auriez pu.
Non, je n'ai pas d'appréciation à formuler là-dessus.
Alors, vous, pour qui l'écologie est importante, vous avez dû voir il y a quelques jours, il a réaffirmé la détermination de l'État à voir réaliser l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, par exemple. Est-ce que c'est une déclaration avec laquelle vous êtes d'accord?
C'est pas une position nouvelle du gouvernement. Qui, vous le savez, attend les recours en justice.
Est-ce qu'il fallait le faire dans le contexte
Je préfère prévenir sur Notre-Dame-des-Landes, puisque dans l'affaire du barrage de Sivens, je pense que tout le monde a à l'esprit le rapport d'experts qui a été publié tardivement, qui pointait un certain nombre de problèmes sur cet ouvrage dont, en réalité, le ministère de l'Écologie avait connaissance depuis très longtemps. Sur Notre-Dame-des-Landes, il y a un rapport d'une commission scientifique indépendante d'experts sur les enjeux de biodiversité et de zone humide qui a pour conclusion logique que ce projet n'est pas réalisable.
Bon, au final, Ségolène Royal, c'est une bonne ministre de l'écologie. Elle a bien géré le dossier Sivens, elle laisse aller les choses pour Notre-Dame-des-Landes, elle fait bien son travail, l'écotaxe. Comment vous jugez ça?
Moi, il y a beaucoup de décisions avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Il y a beaucoup de l'abandon pur et simple de l'écotaxe, et sur Sivens, je suis toujours dans l'attente d'une décision claire de l'État sur le fait que ce projet sera abandonné définitivement et sur le fait qu'il ne sera pas financé. Il n'y a pas de débat juridique compliqué à avoir sur l'abandon du barrage de Sivens. Il suffit de ne pas mettre les 80% de financement de l'État et de l'Europe qui sont prévus pour ce projet.
Avec des agriculteurs exaspérés, c'est difficile comme décision.
Mais je pense que plus on tarde à prendre cette décision qui est la seule qui vaille, plus le dénouement de la crise effectivement est rendu difficile. Donc il faut entendre ce que disent les agriculteurs, il faut y apporter des réponses alternatives, mais la solution n'est pas de maintenir ce projet.
Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci Delphine Bateau. Je rappelle que vous êtes députée PS, ancienne ministre de l'écologie. Merci à nos partenaires France 24, Libération. C'est la fin de Mardi Politique réalisé par Mathias Golcheny. Rendez-vous à tous la semaine prochaine, même lieu, même heure.